Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Et toujours depuis ce salon mi-ivre, mi-raisin, 9 juillet, au 115 Chemin des Cerisiers à Die. Il y a quand même une exception qui est faite dans tout ce salon des vins nature. C'est qu'il y a toujours un brasseur. Et ce brasseur, il est maintenant à l'antenne. Salut David.
Eh ben salut.
Alors toi, tu représentes la brasserie BHB ou brasserie du Haut-Buëch basée à la Jarjat.
C'est ça, ouais.
Alors, on va tout de suite éculer une blague, c'est-à-dire que BHB, pour beaucoup de gens, ça choque. Est-ce que tu peux l'expliquer?
Bernard,
on appelle ça la bière du violeur, c'est ça, non?
La bière du violeur.
BHB, c'est brasserie du Haut-Buëch. Voilà. Donc le Buëch, c'est la rivière qui coule, qui prend sa source à la Jarjat, et puis qui va continuer son chemin jusqu'à Sisteron. Voilà.
Pour jeter dans la Durance. Est-ce que tu brasses avec l'eau du Buëch?
Ouais, je brasse avec l'eau de la source, ouais.
Et voilà.
Exactement, ouais.
Et ça, c'est quand même d'une grande qualité.
J'ai une super flotte. Voilà, que m'envient pas mal de brasseurs qui sont mes collègues qui sont en ville, par exemple. Tu vois.
Est-ce que ça change quoi, en fait, pour les gens qui connaissent rien?
Bah, disons que déjà, quand tu es en ville, tu as des eaux qui sont traitées. Donc, il va falloir que tu rebouges ton eau pour pouvoir arriver à avoir une eau qui soit propice au brassage et obtenir une bière de qualité, quoi. Là, moi, j'ai décidé de pas bouger mon eau parce que même en la buvant, je la trouve très bonne.
Pardon, excuse-moi, mais ça veut dire quoi, bouger l'eau?
Bouger, la modifier, en fait. Y apporter soit des sels, soit des acides pour réguler ton pH.
Voilà. Comme pour l'hydroponie, quoi.
Ouais, je ne suis pas spécialiste de l'hydroponie, mais...
Ouais, c'est pareil.
Ouais, ou la piscine.
Ou la piscine.
Voilà, pour les touristes. Et ouais, du coup, ça veut dire qu'on peut pas brasser une bière comme ça avec n'importe quel...
Si, tu peux. Basiquement, tu peux faire une fermentation dans de l'eau avec une céréale et une levure, il n'y a pas de problème.
Ça marche pour le pain, mais je sais que ça a une incidence.
Après, c'est le plus difficile dans une bière, je pense, c'est d'arriver à obtenir la bière que tu souhaites avoir. Voilà. Si tu prends les trois ingrédients que je viens de te donner, avec du houblon, ça fait 4, tu pourras toujours réussir à faire quelque chose de fermenté. Maintenant, savoir au niveau qualité, si ça va être buvable, au niveau odeur, si ça va être agréable. Enfin, faut qu'il y ait les deux quand même, tu vois.
Cette eau du Buëch, elle amène quoi?
De la qualité.
La qualité,
ouais.
C'est quoi la touche dans ta bière, quoi, tu peux,
Ah, je sais pas. Écoute, il n'y a pas que l'eau, il y a tout. Il y a aussi le savoir-faire, il y a le travail du brasseur, il y a ce qu'il a envie de transmettre, de faire découvrir à travers son produit. Donc je pense que l'eau, c'est 90% de la bière, on va dire, même un peu plus. Mais après, il y a tout le savoir-faire. Tu vas travailler avec ton malt, tu as une palette de malt, qu'est-ce que tu vas utiliser, quel type de bière tu vas avoir, qu'est-ce que tu aimes, toi, en termes de consommateur, qu'est-ce que tu aimes manger, boire, goûter. Et puis après, bah, c'est de pouvoir mettre ça en avant. Enfin, moi, j'aime manger, boire, enfin, j'aime goûter. Et j'aime être surpris, quoi. Donc du coup, au niveau de la bière, j'essaie de déplacer les limites dans la brasserie. Aller sur des choses extrêmes, parfois toi j'essaie d'aller sur le truc un peu plus du goût. En ce moment, je change mon travail, alors du coup là je me surprends, tu vois. Mais ouais.
Tu nous refais un peu l'historique, à quel moment tu as envie de faire de la bière, pourquoi là-haut, comment tu débarques à Luce?
Alors moi je suis arrivé à Luce-la-Croix-Haute un peu par hasard il y a 23 ans, en fait je vivais sur Grenoble, je vivais en collectivité dans les squats, et puis ma compagne était enceinte, donc le choix était fait de quitter cet univers. Et moi j'aspirais vraiment à aller vivre dans la Pampa, la campagne et surtout dans les montagnes, parce que j'en rêve depuis que je suis gamin. Moi je suis originaire de Angers. Et pour le coup, par l'intermédiaire d'un copain qui connaissait un copain qui avait un appartement disponible à Luce, je dis bon, on y va. Et on est arrivé là-bas, et en fait c'était un jour d'automne. Et je suis arrivé dans le vallon de la Jarjat, c'était magnifique. Donc la forêt était en feu, enfin, c'était orange, rouge, vert, il faisait beau. C'était... Et là, je ne sais pas, instinctivement, je me suis dit que c'était là que j'allais m'installer. Et ça s'est fait, et voilà, 23 ans que j'y suis. Donc avant ça, j'étais saisonnier agricole, j'étais cueilleur de fruits et berger. On vivait en camion avec ma compagne. Et donc on a continué cette vie jusqu'à ce que notre première fille aille à l'école, donc en CP. Et là, j'ai dû me poser.
T'as voilà. le cursus légal ici, quand t'es pas du cru, t'arrives en camion, tu ramasses des fruits pour rien.
Et après tu mets ton enfant dans l'école et là t'as le droit d'acquérir.
Et là la mairie te regarde autrement.
Ouais, c'est un peu ça, ouais. Et du coup, alors j'ai pas découvert la bière tout de suite. En fait, j'ai fait pas mal de. Moi, on a arrêté le boulot de saisonnier, j'étais tout doucement, il y a eu une transition, mais j'ai commencé à faire des petits boulots alimentaires à droite à gauche. Et puis finalement, je m'emmerdais. Donc, on a décidé quand même d'aller se faire un gros voyage. Et on est parti en Argentine quelques mois. On s'est dit peut-être qu'il y a une occasion là-bas qui nous attend. Puis finalement, on a fait le tour. Et là, j'ai découvert la bière artisanale dans le sud de la Patagonie. Et voilà, sans gros intérêt. Parce que j'étais pas amateur de bière déjà à l'époque, ça m'intéressait pas plus que ça. Il n'y avait pas beaucoup de choses. Moi, ma bière, c'était Jeanlin, la bière des copains. C'était la seule bière que je buvais. Et voilà, donc par contre, je faisais un petit carnet de route. Donc j'ai récupéré les bières, j'avais collé des étiquettes dessus. Et puis on termine le voyage, je rentre en France et voilà, je retrouve ce que j'avais quitté, mélancolie, tristesse, qu'est-ce que je fous de ma vie. Donc je me refais mon carnet de voyage sur internet, puis je vais voir la brasserie dont j'avais gardé l'étiquette, et là je vois une pub sur le côté qui s'affiche « Faites votre bière à la maison ». Et je dis « Bon, ça peut être sympa ça, pour les copains ». Donc je me suis acheté un kit, et j'ai fait ma première bière, et là c'était une révélation. Là je me suis dit « C'est bon, je vais devenir brasseur ».
Tu te levais la nuit pour aller surveiller, monter, la moindre degré, les machins, les bulles.
Alors au début non, parce que je connaissais pas du tout la bière, donc j'avais acheté un petit bouquin avec 4 pages qui t'expliquait un petit peu le process de base. C'est pour ça que je te dis que tu peux faire une bière de base. Et du coup j'avais mis du houblon, c'était pas terrible, mais j'étais super content parce que s'il y avait des bulles, de la mousse, et ça, moi en tout cas je la buvais, ouais, voilà. Et à partir de là, je me suis plongé dans l'univers de la bière, j'ai commencé à acheter énormément de bière et à découvrir des trucs incroyables, en fait ce qui m'a stimulé pour l'avenir. J'ai construit ma brasserie avec ma compagne à l'époque, parce que les banques ne nous suivaient pas sur ces projets-là, il n'y avait pas encore de filière brassicole. Donc on faisait de la récup et j'ai monté ma bière pendant 2 ans et en 2010 j'ai ouvert la brasserie du OBH. Ouais, voilà.
Et donc tu dis t'achetais plein de bières, mais juste avant tu nous disais que t'aimais pas la bière. Bah, alors, c'est la révélation, c'est parce que t'as fait ton produit, tu dis je suis obligé de le boire.
Non, en fait c'est la transformation du malt déjà en un mousse sucré. Ça a été, j'ai trouvé ça délirant. Magique. Et surtout, ça a été la fermentation. Et ça reste encore aujourd'hui la plus grosse de mes motivations, c'est la fermentation. Ouais.
T'aimais les sciences à l'école ?
Pas du tout, non. Non, justement, c'était un moyen de l'aborder, tu vois. Donc,
ça me fait penser à la découverte de la fromagerie pour certains.
Ouais.
Le monde du tout petit, des microbes, des choses, des trucs qui font que... Ton fromage, il vit et tout. Voilà.
Bah, disons que ouais, c'est ça, c'est plutôt empirique. Tu fais tes expériences, tu foires, tu recommences. Et puis, par contre, j'avais commencé à acheter de la littérature sur la bière pour pouvoir aller un peu plus loin et essayer de comprendre les process. Alors après, c'est pareil. Hein, dès que ça commence à aller sur les molécules, j'abandonne très rapidement parce que là, j'ai pas les compétences. Mais dès qu'il y avait une erreur dans le brassage, je commençais à aller chercher des réponses. Et en plus, tu avais le net, donc je recroisais la littérature plus les forums. Et ça me permettait d'avancer comme ça, quoi. Je suis resté sur des protocoles empiriques, je le reste encore aujourd'hui, et voilà.
Qui étaient tes premiers cobayes ?
Mon entourage, les copains.
Vous avez mal au ventre, vous avez mal au crâne. Est-ce que des fois il y en a qui t'a dit non,
c'est là. C'est quand ils disent « Oh, c'est surprenant
!» Ça, c'est gentil.
Ouais,
c'est
ou les lendemains matins. T'as aussi des lendemains matins quand même avec de la bière artisanale des fois.
Écoute, non, j'ai pas souvenir de ça. Non, j'ai plutôt.
Ouais, du coup, une belle réussite que t'as jamais réussi à refaire. Toujours un brassant, genre tu dis putain, celui-là, je le garde. Quand je serai pro, je le ferai. Et puis. Ça arrive. Ça.
En fait, en général, quand je réussis un brassin, je le garde.
Ouais, mais tu le gardes.
J'arrive à le refaire.
À grosse, grande échelle.
Ouais. En fait, le travail, c'est un travail de longue haleine aussi. Tu vas. En fait, maintenant, aujourd'hui, moi, je construis une bière, je la dessine dans ma tête. Je vais me renseigner sur un style de bière, par exemple, me dire, je vais travailler Lichtenheiner, une bière acide fumée qui se trouvait au 15e siècle, 16e siècle, dans l'est de l'Allemagne. Bon, je vais essayer de trouver le maximum de littérature là-dessus. Voilà. et je vais le travailler, et puis je vais m'en faire une idée. Je vais pas trop faire le modèle exact d'un Liechtensteiner, sachant qu'il devait y en avoir surtout une famille à Liechtensteiner. Et je vais essayer de me faire une image de cette bière, et après ça va être de la mettre à ma sauce, quoi. Et
on a l'impression que la bière, c'est un peu comme de la pâtisserie, à une recette ultra cadrée, ultra carrée, presque au gramme près. Est-ce que les éléments extérieurs, genre maintenant ils fassent de plus en plus chaud, ou est-ce que ce genre de choses-là, ça a un impact sur ta production, sur le produit fini? Est-ce que des fois, il y a des choses, tu sais pas comment ça va tourner?
Ouais.
Parce qu'il fait chaud, parce qu'il fait très froid, parce que...
Non. Alors, pour les bières que je fais, non. En fait, à une époque, je notais tout, je notais la météo, etc. Alors, ça va avoir une influence, par exemple, sur l'ébullition, la pression atmosphérique qui change, etc. Mais ça bougera pas fondamentalement ta bière. Là où ça devient perturbant, ça va être pour des bières qu'on appelle des bières de fermentation spontanée, qui sont faites, les plus connues sont en Belgique, il y a des Cantillons, etc., qui sont à la vallée de la Seine en Belgique, et eux, ils brassent à un moment bien précis leur bière, je crois que c'est novembre, mars, si je ne dis pas de bêtises, et c'est là où ils vont inoculer leur bière avec des levures sauvages, fermentation sauvage. Mais vu que ça se réchauffe, cette période, elle est en train de se rétrécir, justement. Se rétrécir parce que il n'y a plus les températures qui permettent à certains micro-organismes de se développer correctement. Voilà. Après, tu vas avoir des problèmes, non, si tu refermentes. Moi, je refermente en bouteille. Je ne fais pas de carbonatation forcée au CO2. Ouais, ça peut faire bouger un petit peu la structure de ta bière, mais c'est pas déconnant, quoi.
C'est pas des gros changements.
Non. Et puis il faut savoir que ça reste de l'artisanat, donc ça ne veut pas dire que ça doit être dégueulasse, au contraire. Mais ça veut dire que c'est pas standard.
Elle n'a pas toujours le même goût.
Elle a toujours le même goût. Elle n'a pas la même... Alors moi, par exemple, si tu veux, si quelqu'un vient à la brasserie, qui vient chercher une bière, une Pamela par exemple, il faut qu'il retrouve la Pamela. Alors, moi, je goûte mes lots à chaque fois, donc je vais sentir des nuances. Mais le consommateur, il va retrouver la bière.
Oui, l'ensemble. Après, ouais. Si on la regarde, c'est pas vraiment la même.
Non, quoi. Non.
C'est pas standardisé.
Non, c'est pas standardisé. Ouais.
Un petit chiffre comme ça, t'as combien de bières à peu près
Là, moi, j'ai actuellement une trentaine de références à la brasserie, et puis que je continue à faire évoluer. Ouais.
Voilà, okay. Moi, c'était la question que je voulais te poser, David, avec la brasserie du OBH. Tu fais partie, tu es en local celui qui a le plus de références. Clairement,
ouais.
T'as dit 30, c'est hallucinant, donc 30 bières différentes, on peut comprendre comment tu bosses là, enfin je veux dire le labo il est énorme, t'as combien de
cul t'en as partout. C'est...
Parce que là on en connaît qui ont 12 références et qui sont sur des brasseries énormes, semi-industrielles. Semi-artisanales, c'est selon le point de vue.
Ouais bon après le terme artisanat industriel il est à définir en fonction de l'état d'esprit, c'est pas en fonction de l'outil mais de l'état d'esprit. Tu peux avoir une très très grosse brasserie et avoir un esprit créatif et artisan, tu vois. L'outil de travail, en fait, c'est le choix de l'humain de faire ce qu'il a envie de faire. S'il veut faire une seule bière et que ce soit toujours la même pour plaire au maximum de gens, bon, bah voilà, il va rentrer dans un système industriel où il ne s'emmerde pas. Après, tu peux être créatif et avoir envie de faire 50 000 bières. Et je ne pense pas que ça soit dû au fait du volume ou de la machine. Moi, j'ai une toute petite brasserie, j'aimerais bien avoir une grosse brasserie, justement, tu vois, pour pouvoir exprimer ma créativité encore plus. Donc comment je fais? Évidemment, il y a une réalité économique qui m'oblige à faire des bières qui vont se vendre, tu vois. Et à côté de ça, je m'octroie du temps pour pouvoir faire des bières qui m'intéressent beaucoup plus. En fait, je fais tourner toutes les références que je garde. Elles restent à la brasserie, mais je les fais tourner. Donc, si tu veux, il y a des gens qui viennent chercher des bières, je les aurais peut-être pas avant 2 ans, quoi.
Voilà. En quoi il a changé le marché et la consommation? Parce qu'on ne boit pas la même bière tout de suite que quand tu as commencé. Je sais que par exemple, je vais donner un exemple ici, quand on a les brasseurs artisanaux, ils ont commencé, ils faisaient de la blonde, de l'ambrée et un tout petit peu de brune, mais vraiment pas beaucoup. Ouais. Et après, ils ont fait deux blondes, deux ambrées et une petite stout. Ouais. Et puis là, d'un coup, tout le monde fait de l'IPA. Et d'un coup, tout le monde fait des trucs assez houblonnés, un peu des trucs un peu strong et tout, quoi. Est-ce que toi aussi t'as ressenti que
goût
a changé?
Ouais, alors si tu veux, moi je vois le monde brassicole en plusieurs phases. Il y a eu les premiers brasseurs dans les années 80, fin des années 80, qui n'étaient pas nombreux, qui avaient des bières assez classiques, hein, donc blonde, blanche, ambrée, brune. Et la bière typée, c'était celle avec laquelle on mettait des fleurs dedans. Voilà. Et puis après, il y a eu le phénomène du IPA. Donc ça a bousculé vraiment le monde de la bière. Et tu as eu la deuxième vague de brasseurs artisanaux. Et donc là, on est tombé vraiment avec des groupes de passionnés, des gens qui s'intéressaient à la bière. Il y a eu tout le phénomène de houblons américains, qui sont des bières hyper, des houblons très fruités. Et ça a complètement bousculé les stéréotypes de la bière.
Même chez les industriels, les
bien sûr.
Industriels, qui étaient pépères plan-plan, qui faisaient leur... les Belges, hein, Duvel, enfin, tous ces trucs-là. Pour pas les nommer, ils étaient plan-plan. Et
ouais, c'est ça.
Et là, d'un coup, arrive ça et bah, ils s'en emparent. Enfin, ils essayent. Du coup, ils proposent des choses qu'on est très loin de ce que le consommateur réellement qui aime ça veut, mais ils proposent des choses.
Ouais.
T'as des Grim IPA au supermarché qui sont très sucrés, mais.
Ouais,
de ça. Enfin, voilà, ça a vraiment changé.
Ah, disons que maintenant, si tu mets IPA derrière une bière, tu es quasiment certain de la vendre. Hein. Donc,
c'est vrai.
Hein, ouais, non, mais franchement, c'est délirant, mais c'est un peu ça. Donc, tu retrouves des styles avec IPA à la fin, ça a quoi sens. Mais c'est vendeur.
Mais bon,
la plupart des gens, quand ils viennent te voir, ils te demandent si t'as une IPA. Quoi. Ouais.
Et si on parle de toi, du coup, ces 30 références, t'es allé piocher dans quel type de. Peut-être de bières qu'on pourrait connaître. Ça a été quoi ta culture? Les Belges, les Irlandaises, les Américaines, les Allemands.
Ouais. Alors en fait, donc moi je te disais que j'ai acheté de la littérature. J'ai acheté aux États-Unis parce qu'il n'y a pas de littérature sur la brasserie en France. On va faire des bouquins, des énièmes bouquins sur les meilleures, 100 meilleures bières de France ou machin. On va t'apprendre à faire de la bière rapidement, mais beaucoup plus technique, c'était difficile à trouver. Et il se trouve que les Américains ont développé. Alors quand je parle des Américains, c'est Nord, Amérique, Canada, États-Unis. Se sont très très vite intéressés, ils ont une culture bière qui est beaucoup plus importante que la nôtre, hein. Nous on est sur le vin, ça commence à bouger aussi de ce côté-là, et puis il y a deux mondes qui sont en train de se rencontrer actuellement, c'est vin nature et puis la bière artisanale, et il y a des bières qui se font, des bières hybrides qui se font, qui sont hyper intéressantes. Mais si tu veux, là, à ce moment-là, les Américains, quand ils ont commencé, quand les bières artisanales américaines, les brasseries artisanales américaines ont commencé à faire bouger leur secteur, ils se sont vite retournés sur l'histoire européenne, voilà. Et tu as une histoire qui est très très riche. Et du coup, il y a beaucoup de brasseries qui ont repris des styles, qui les ont remis à leur goût. Et en fait, moi, je ne suis pas passé par cette étape-là. J'ai pris les bouquins pour la technique. Par contre, je me suis vachement intéressé à travers la littérature sur des styles qu'on trouvait beaucoup en Allemagne. Donc, Allemagne ou Est de l'Europe, donc comme le Grätzer ou le Grodziski, qui est une bière fumée qui a disparu dans les années 90, qui a été sauvée par les brasseurs amateurs polonais. Qui était une bière de soif, de table, qu'on trouvait partout en Pologne. Et puis avec la fusion des entreprises dans les années 90, ça a disparu. Voilà.
Pourquoi les pays de l'Est? Pourquoi l'Allemagne en fait?
Parce qu'il y a une grosse culture bière, parce qu'ils font du blé.
Mais toi, c'est celle que tu as préférée au goût? Qu'est-ce qui t'a envoyé là-bas?
Ouais, bah écoute, moi j'apprenais, j'ai goûté des bières. Et mes premières bières qui m'ont un peu surprise, justement, ça a été des bières belges ou des bières allemandes. Et je suis resté là-dessus. J'avais envie d'aller découvrir cet univers. Puis j'avais aussi envie de me différencier un petit peu de ce qui était en train de se passer. Là, on était sur du IPA hyper houblonné et ultra fruité, ce que j'appelais les bières tutti-frutti, tu vois. Et moi, j'avais envie de rester avec des houblons européens, essentiellement français. Donc, je travaille avec Kopudal, etc. Et puis, je travaille avec des houblons allemands, polonais, tchèques. Et j'ai pas très, très peu de bières avec des houblons américains, qui sont assez faciles d'accès, puisqu'elles sont assez fruitées. Quoi. Aujourd'hui, tu as toute la scène de NEPA, New England IPA, etc. Enfin, bon, on peut aller très loin là-dessus. Mais non, j'avais envie de me différencier, d'aller découvrir la culture bière en Europe. Et je me suis intéressé à ça, ouais.
Et toi, ton houblon, tu le prends où?
Alors moi, mon houblon, je vais travailler avec...
Tes céréales, puisque
Les céréales, je travaille avec une malterie, pour la grosse partie de mes bières, avec une malterie allemande qui s'appelle Weiermann. Ça fait, depuis que je suis brasseur amateur, je travaille avec eux. Et puis aussi avec une malterie artisanale en Haute-Savoie qui s'appelle Maltin Pot. Voilà. Et pour le houblon, je travaille avec la Kopudal en Alsace, et puis j'ai un distributeur. Pour tout ce qui est houblon, tchèque, allemand, qui était anglais, mais là ça coûte une blinde maintenant parce qu'il y a les taxes de douane à payer. Donc je suis à la recherche d'un fournisseur de houblon.
tu l'as entendu.
Et du coup, si tu veux, il y a maintenant des houblonniers qui s'installent.
Oui, pardon, je voulais couper là-dessus, mais parce que tu dis que tu es à la recherche, mais est-ce que le houblon qui pousse là en local, c'est de plus en plus de gens, il est plutôt typé américain?
Ouais, c'est ça, ouais. Du coup.
Qui manquerait d'aller.
Alors du coup, je me suis refusé à le faire jusqu'à présent, puis maintenant je commence à trouver, et puis le monde change, donc je commence à me retrouver, je me dis c'est un peu con quand même de s'empêcher d'aller travailler sur du local juste parce qu'ils font du houblon typé américain. Je me dis là, il est typé américain, mais il pousse... dans la vallée, donc là aussi je suis en train de changer.
Il y a la notion de terroir aussi, parce que le houblon américain qui va pousser ici, il va prendre un petit peu la météo d'ici, le sol d'ici, les minéraux qui sont dans le sol, son goût il va un petit peu varier, je pense.
Alors il va y avoir des changements, ça c'est une évidence, mais par contre moi la notion de terroir dans la bière, j'y crois pas trop. Enfin,
ce houblon il va être différent en tout cas.
Ouais, je suis plutôt
ici quoi.
Ouais c'est ça, mais après
il va fleurir moins tard ou enfin ça va.
Après tu vas des nuances de saveur quoi, ça c'est certain. Mais c'est surtout parce qu'il pousse ici, quoi. Tu vois.
Bon, un appel à ceux qui font pousser du houblon ici à faire pousser d'autres houblons.
J'ai fait ma demande déjà aux houblonniers de faire un peu des variétés européennes.
Mais... Il faudrait qu'ils s'agrandissent. Bon, ça viendra peut-être.
Bon, bah, qu'est-ce que t'as envie? Non, mais t'as envie de cette brasserie?
Depuis 12 ans, j'ai fini par en vivre. Ouais. Ça va. Là où je vis, le salaire que je me fais, ça me permet de vivre.
Voilà, et c'est passé par quoi du coup? Quel type de distribution? T'es autonome là-dessus? Où est-ce qu'on te trouve?
Alors, on me trouve à la brasserie déjà. Et puis après...
Donne l'adresse alors.
La Jarjatte, au milieu du hameau. Ouais. Et ensuite, je reste toujours sur un marché de niche. Donc la plupart du temps, je travaille en direct. Là, on est sur un projet de développement, justement, pour avoir une brasserie... Alors, il y a l'ergonomie, puisque le temps aussi fait son affaire sur le corps. Et là, j'aspire à avoir un outil qui soit un peu plus facile, à automatiser certains postes qui sont pénibles. Et puis après, travailler avec un distributeur, sachant que ce qui m'intéresse, c'est quand même d'avoir une proximité avec les gens avec qui je travaille. Ouais. Ça, c'est important.
Et qu'est-ce que tu fais de tous tes ratés?
Je les distille.
Tu les distilles?
Ouais, je les distille et je fais de la fleur de bière avec. Et ensuite, je laisse vieillir en barrique. Donc, je choisis une barrique et puis je laisse le temps que... Quand j'ai envie de les sortir, je les mets en bouteille. Mais généralement, j'essaye de les garder pas mal d'années. C'est un petit plaisir que je me fais. Je les vends après la brasserie. Là, je gagne pas beaucoup d'argent. J'en gagne quasiment pas même. Mais c'est surtout pour le plaisir que je le fais. Ouais. Puis ça me permet de valoriser un petit peu le produit. Parce que des fois, c'est pas qu'il est dégueulasse, mais il a une mauvaise structure. Tu vois, ça gueuche.
Je trouve qu'on en boit pas beaucoup de... comment tu dis ?
La fleur de bière, ou esprit de bière. Fleur de bière ou esprit de bière. Bah parce que ça coûte très cher en fait. Tu immobilises un produit, en plus on passe sur un alcool qui est différent.
Et une autre licence
pour la alors c'est pas une licence, tu vas payer des taxes beaucoup plus importantes sur...
les droits de douane.
Sur les douanes. Ça coûte très cher, c'est pour ça que la plupart des distilleries qui commencent à s'installer, qui veulent faire du whisky, en général ils font une boisson, un spiritueux assez rapide, pastis, gin, le genre de choses quoi, pour pouvoir rentrer la trésorerie. Quoi.
Ah oui. Donc toi c'est à la marge cette... Tu rates tellement peu de brassins finalement que c'est un peu à la marge tout ça.
Ouais, c'est un petit plaisir que je me fais.
Ouais. Bon, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là?
Je sais pas. Moi,
dans le Buèche là-bas au frais là. Au milieu de
Il fait pas si frais. Franchement, c'est déconnant cette année. Hein. Mais de l'amour et puis plein de bonnes choses quoi. Voilà.
T'as un site internet?
Un blog.
Un blog, ouais. Donc on peut aller dessus.
Il y a le blog. Et puis on a aussi ouvert, on a repris le bar de la station de la Jarjatte, où on présente nos bières aussi. Et puis on travaille avec des produits locaux, avec les artisans du coin, ouais, au maximum. Ouais.
Et dans le Diwa, elle est où ta bière? Tu sais pas? Il n'y a aucun revendeur.
Tu vas à l'Arbre à Biel chez Christian.
Voilà,
il y a chez.
Je savais pas que je l'ai bu. Ouais. Je l'ai cherché depuis tout à l'heure où je l'avais bu. c'est ça.
Tu vas chez La Cave. Je me suis appuyé du nom chez Eric. Et puis, je sais pas s'il y en a encore. Ouais, ça va être ça. Ouais.
Jaja Culture,
ouais. Tu dois en avoir. Et puis, sinon, non, il n'y en a pas.
Ah, sinon, c'est pas grave. Hein, tant pis pour toi, dis-moi.
Eh faut monter. Non, mais
tu fais la route. Tu fais la route.
Une balade à Luz, c'est quand même pas extraordinaire.
Bon,
à faire.
Et quand tu fais de la bière, tout ça, qu'est-ce que tu écoutes comme musique?
Alors, j'écoute énormément de musique.
Du coup, c'est toi qui va finir là. Qui va
c'est vrai. Je peux prendre un petit morceau que j'aime là?
Ah, c'est que t'aimes.
Qu'est-ce que je suis en train d'écouter en ce moment? J'ai découvert un groupe là, ça s'appelle Idols. Et je sais pas, j'ai pas de titre en tête.
Écoute,
comment tu l'écris, Idels?
Idels.
Superbe.
C'était cool en tout cas, merci beaucoup.
Moi, ce que je propose un truc là, les gars, c'est qu'on aille boire une bière du Houblon. Direct.
Moi, je n'ai fait que ça de l'après-midi. Je le dis dans le cadre de ce salon de vin nature.
Allez, coupe.
Loves the choir, call off the town choir, climb that razor wire and medicate, medicate, medicate.
Meditate.